bonjour à tous. La Grande Table, c'est à 12h45 avec, comme tous les jours, deux parties. D'abord, on parlera de mélodrames français à l'occasion d'une rétrospective à la Cinémathèque. Puis viendra l'heure de la session musicale. Ce sera Juliette Armanet et enfin le portrait de Christian Prigent. Mais tout de suite, il est 12h30 et c'est l'heure du journal de la rédaction. Journal présenté par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Lucille, bonjour à tous. L'État islamique revendique pour la première fois un attentat en Allemagne, une attaque à la hache perpétrée hier par un jeune Afghan dans un train qui a fait 4 blessés. Précision de David Philippot dans un instant. En France, le Conseil des ministres adopte un texte qui prolonge l'état d'urgence de 3 mois. Tout sera mis en œuvre pour protéger les Français dans le cadre de l'état de droit, des valeurs de la République et de la démocratie, déclare le chef de l'État cité tout à l'heure par le porte-parole du gouvernement. Le texte va passer dès ce soir devant les députés. Analyse et suivi de Stéphane Robert. Le Premier ministre turc rejette ce matin tout esprit de vengeance à l'encontre des putschistes. L'Union européenne avertit une nouvelle fois Ankara sur un éventuel rétablissement de la peine de mort. Commentaire de Nabila Hamel. Donald Trump formellement investi, aujourd'hui candidat républicain à la Maison-Blanche par les délégués de la Convention de Cleveland. Il est ce matin confronté à des accusations de plagiat visant sa femme qui aurait copié un discours de Michelle Obama. Correspondance de Frédéric Carbone, précision de Camille Renard. Et puis France Stratégie publie une note sur... Camille Revel. Et puis France Stratégie qui publie aujourd'hui une note sur la révolution industrielle en cours. Plus de 3,5 millions d'emplois qui seraient dans les prochaines années en France remplacés par des automates, compte rendu avec Hakim Kasmi. Les autorités allemandes évoquent un probable attentat islamiste. Un jeune homme, demandeur d'asile afghan, 17 ans, qui a grièvement blessé hier soir 4 passagers d'un train à la hache et au couteau avant d'être tué par la police. Les faits se sont produits vers 21h à bord d'un train régional qui transportait une trentaine de personnes. Ça se passe dans le sud de la Bavière. Un drapeau de l'État islamique a été retrouvé chez l'agresseur. L'État islamique qui donne ce matin son label à l'opération et affirme que l'attaque a bien été menée par un de ses combattants. David Philippot, bonjour.
Bonjour.
Avec nous en direct de Berlin. Un mot d'abord donc sur les circonstances de cette attaque qui est une première en Allemagne.
Il était 21h15 quand le signal d'alarme a été déclenché. Le train est alors à l'approche de la gare de Würzburg et ce réfugié sort une hachette et un couteau pour attaquer d'autres passagers de ce train régional en criant « Allahu Akbar ». Cela vient d'ailleurs d'être confirmé par le ministre de l'Intérieur bavarois. C'est une attaque brutale. 5 voyageurs sont frappés dans ce wagon à étages qui ressemble à un RER. C'est une famille originaire de Hong Kong. Un de ses membres lutte encore contre la mort. Quand le train s'arrête, le jeune homme de 17 ans réussit dans un premier temps à prendre la fuite. Il agresse une femme dans sa cavale. Un commando d'intervention de la police se trouvait là par hasard, à proximité, le prend en chasse, cerné. Il aurait alors voulu les attaquer à la hache et les policiers ont alors ouvert le feu.
Alors sur le profil de l'auteur maintenant de cette attaque, il semble que comme pour Nice, il faille à nouveau parler de terrorisme de proximité. C'est l'expression utilisée hier par le procureur Molins.
Alors ce qu'on sait, c'est que ce garçon de 17 ans était arrivé depuis plus d'un an en Allemagne. C'était un mineur isolé, arrivé d'Afghanistan sans sa famille donc. Et depuis 2 semaines, il avait été placé dans une famille d'accueil et c'est chez ces personnes, dans sa chambre, que le drapeau a été retrouvé. Un drapeau noir et blanc fabriqué à la main, plus un texte écrit en pachtou qui ferait référence à Daesh. Selon l'enquête, il n'allait pas souvent à la mosquée, seulement pour les jours de fête, et aucun lien avec des organisations extrémistes n'a encore été établi, selon le ministre. C'est la poursuite des investigations qui devra le démontrer. Il était seul dans le train et il a agi seul. Son ordinateur et son téléphone portable vont être analysés pour savoir dans quelles conditions il a pu se radicaliser. Vont être aussi interrogés les membres de la famille d'accueil et les gens qui l'ont côtoyé auparavant dans le foyer pour savoir si c'était un garçon particulièrement fragile psychologiquement.
David Philippot, merci beaucoup. Vous étiez en direct de Berlin. Donc le groupe djihadiste État islamique affirme que l'homme est un de ses combattants, qu'il a mené cette opération en réponse aux appels à viser les pays de la coalition qui combattent l'État islamique en Syrie et en Irak. C'est ce que poursuit donc le communiqué de l'agence AMAC. En France, nous sommes 5 jours maintenant après l'attentat de Nice. Le Conseil des ministres a adopté ce matin un texte qui prolonge de 3 mois l'état d'urgence. Tout sera mis en œuvre pour protéger les Français, affirme le chef de l'État cité par le porte-parole du gouvernement. gouvernement, protéger les Français dans le cadre de l'état de droit, des valeurs de la République et de la démocratie. Le texte va donc passer dès ce soir devant les députés, avec une possible extension de cet état d'urgence à 6 mois, qui est réclamé par une partie de la droite et que pourrait peut-être accepter le gouvernement, Stéphane Robert.
Oui, le gouvernement semble décidé à faire un geste en direction de l'opposition. Pourquoi pas 6 mois au lieu de 3 mois, a concédé il y a quelques minutes le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, à la sortie du Conseil des ministres. Par ailleurs, le texte prévoit à nouveau d'autoriser les perquisitions administratives. Elles avaient été supprimées en mai dernier. Et il prévoit aussi la possibilité d'utiliser les données informatiques saisies à l'occasion de ces perquisitions, ainsi que les données des téléphones portables. Et pour ça, il a fallu aménager le texte de loi afin de répondre à une interdiction d'utiliser ces données prononcée par le Conseil constitutionnel le 19 février dernier. Interdiction au motif que ça rompait l'équilibre entre la nécessité de faire respecter l'ordre public et la nécessité de garantir les libertés individuelles. Des garanties ont été apportées, explique aujourd'hui Manuel Valls. On peut donc désormais se servir des données numériques. Voilà donc pour la main tendue en direction de l'opposition. Mais pour le reste, pas question d'accepter la proposition de Nicolas Sarkozy de créer des centres de rétention préventifs pour y enfermer les personnes fichées S par les services de renseignement. Il paraît également difficile d'accepter l'expulsion des binationaux ayant des liens avec un groupe terroriste. François Hollande, vous l'avez dit, a résumé en ces termes ce qui sera décidé. Tout sera mis en œuvre pour protéger les Français, mais dans le cadre de l'état de droit, des valeurs de la République et de la démocratie.
Merci beaucoup Stéphane Robert. Juste après le Conseil des ministres, le chef de l'État s'envole pour le Portugal. C'est la première étape d'une tournée qui va viser à rassembler les 27 autour d'une initiative pour l'Europe d'après le Brexit. Pas de grande vision refondatrice dans les projets du chef de l'État, mais la recherche d'un consensus autour de quelques priorités, la défense, les investissements, la jeunesse, Quentin Dickinson.
Pour François Hollande, l'Europe ne peut espérer convaincre le plus grand nombre de ses citoyens de son utilité que si ceux-ci l'aperçoivent comme une protection efficace dans un monde incertain et irrationnel. C'est là la condition de la réussite du projet de relance de l'UE que la France, l'Italie et l'Allemagne proposent ces jours-ci à leurs partenaires post-Brexit. Cette Europe renouvelée doit d'abord être celle de la sécurité collective qui comprend à la fois la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité sur son propre territoire, l'engagement militaire hors de ses frontières et la neutralisation des cyberagressions d'où qu'elles viennent. Cette Europe-là doit aussi savoir protéger les intérêts de son économie, trop longtemps ouverte à ses principaux partenaires commerciaux, sans que ceux-ci lui apportent la réciprocité escomptée. L'amplification du plan Juncker d'investissement direct dans les projets des entreprises s'impose également. Mais il faut aussi que les citoyens comprennent mieux le fonctionnement des institutions de l'UE, faute de quoi ils continueront à bouder le contrôle démocratique que sont les élections européennes.
Quentin Dickinson. Le Premier ministre turc rejette ce matin tout esprit de vengeance à l'encontre des putschistes. Nous sommes maintenant 4 jours après ce putsch raté. La machine judiciaire est lancée avec la mise sous écrou de 26 généraux dans le cadre d'une vaste opération de reprise en main par le régime Erdogan. L'Union européenne avertit qu'un rétablissement de la peine de mort qui avait été abolie en 2004 dans le cadre des négociations d'adhésion lui fermerait la porte du bloc européen. Ce matin encore, d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement français affirme que s'il y avait de la part de la Turquie aujourd'hui sur la question de la peine de mort, un retour en arrière, cela stopperait immédiatement toutes les discussions sur ces questions-là. Et puis ce matin, le commissaire européen à la société numérique affirme que du fait de la vague de répression qui a suivi le coup d'État manqué, les Turcs qui souhaitent se rendre dans l'Union européenne ne seront pas exemptés de visa cette année, et ce malgré la promesse qui a été faite en ce sens à Ankara. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
On voit qu'Erdogan règle ses comptes chez lui, mais on voit aussi que l'Europe et peut-être d'autres pays recadrent leur position par rapport à la Turquie.
Oui, maintenant que la répression s'abat de manière implacable, non seulement sur les militaires putschistes, mais aussi sur des magistrats soupçonnés d'être proches de l'opposant Gülen, maintenant que le président Erdogan dit prendre à témoin sa population pour se présenter comme un sauveur de la démocratie, maintenant que la presse turque se sent encore plus muselée, et bien côté européen, c'est la gêne. On a déjà perçu cet embarras dans les différentes positions affichées par Angela Merkel ou François Hollande. S'ils ont fermement condamné le coup d'État, ils ont aussi demandé à Ankara de réagir dans le respect de l'État de droit. Cet embarras traduit une relation toujours teintée d'ambiguïté. Cela s'est vu au moment où la Turquie demandait son adhésion à l'Union européenne et où Bruxelles lui demandait de remplir une série de critères qui allaient du respect de la démocratie à l'abolition de la peine de mort, du règlement de la question kurde à celui de la question Chypre. Tout cela alors qu'à titre personnel, des responsables européens ne cachaient pas que la Turquie n'avait pas vocation à faire partie de l'Union européenne. Donc, une relation cas un cas jusqu'à cette dernière année du conflit syrien qui a vu un flux de réfugiés qui, via la Turquie, arrivaient en Europe. Bruxelles a alors proposé d'exempter les Turcs de visa en échange du maintien en Turquie des réfugiés syriens. Cette mesure pourrait, vous le disiez, ne pas être appliquée cette année. Commence-t-on à entendre à Bruxelles? L'Europe, qui se déchargeait sur la Turquie, pourra-t-elle se passer de cet acteur important aujourd'hui? C'est la question. Elle se pose également pour les États-Unis, en délicatesse ces derniers jours avec Ankara, qui ont besoin pourtant de ce membre de l'OTAN pour poursuivre leur offensive contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak.
Nabil Hamel, merci. Donald Trump sera formellement investi aujourd'hui, candidat républicain à la Maison-Blanche par les délégués de la Convention de Cleveland, après le vote des 2472 délégués élus lors des primaires. Les quatre jours de convention républicaine mettent en scène l'unification assez laborieuse du parti républicain. Donald Trump a fait une brève apparition hier soir, mais c'était pour introduire son épouse. Discours de son épouse, l'ancien mannequin Melania Trump. Frédéric Carbone était sur place.
Sur la scène de Cleveland, exceptionnellement, Donald Trump ne parle pas de lui. Il est juste là pour présenter sa championne.
Ladies and gentlemen, Melania Trump, thank you very much.
Voilà donc celle qu'il qualifie de mère modèle et de femme incroyable. Voilà la seule immigrante applaudie pendant une soirée où les propos ont parfois été très violents. Melania Trump décrit son parcours, mais elle est surtout là pour rassurer les Américains.
If you want someone to fight for you and your country,
si vous cherchez quelqu'un qui se bat pour vous, Donald est votre homme. Il ne vous laissera jamais tomber. Un quart d'heure de discours, mission accomplie. Pour Dan Rather, figure du journalisme politique vétéran de ces conventions, l'enjeu de cette séquence familiale est essentiel pour le candidat. Il a quatre soirées pour convaincre suffisamment d'Américains qu'il est un candidat crédible. Le fait que sa femme, si discrète, soit là, montre à quel point il a besoin d'adoucir son image. Un époux parfait, Donald Trump vient donc féliciter sa femme à la fin du discours. Il regarde à plusieurs reprises le micro, il résiste à la tentation, il quitte la scène sans dire un mot.
Reportage donc à Cleveland de Frédéric Carbone. Donald Trump qui est pourtant confronté ce matin à des accusations de plagiat qui visent son épouse. Ses services auraient copié un discours de Michelle Obama, en particulier un passage consacré à la transmission des valeurs. Vous avez enquêté, Camille Revel.
Oui, dans ce passage, Melania Trump s'adresse aux enfants. La seule limite qui s'impose à la réussite, c'est la force de vos rêves, votre volonté de travailler.
We want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them.
Et voilà ce que dit Michelle Obama 8 ans plus tôt.
We want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them.
Voilà, la même phrase extraite de deux paragraphes pratiquement identiques. La force des rêves du travail, ce sont des thèmes courants, mais l'affaire est d'autant plus embarrassante et que le discours de Melania Trump est censé être très personnel, la révéler aux électeurs. Elle y évoque son parcours d'immigrante élevée en Slovénie, mais elle le fait avec les mots de Michelle Obama qui raconte son enfance à Chicago. Et pour ses critiques, cela sonne donc un peu creux. Ce n'est pas la même plume. Le discours de la première dame a été écrit par une rédactrice, aujourd'hui employée à la Maison Blanche. Le camp Trump offre cette réponse. L'équipe de Melania a pris des notes sur les sources d'inspiration de sa vie et inclut des fragments reflétant sa propre pensée. Que Melania Trump n'écrive pas son discours seul, rien de plus classique, mais c'est un nouveau couac pour une équipe de campagne déjà épinglée pour son manque d'expérience qui compte 70 membres contre 700 pour Hillary Clinton, avec un budget 40 fois inférieur à celui de la démocrate.
Camille Revel, merci. France Stratégie, l'organisme officiel qui a remplacé le commissariat au plan, publie aujourd'hui une note sur la révolution industrielle qui est en cours. Près de 3,5 millions d'emplois seraient ainsi menacés dans les prochaines années d'être remplacés par des automates. Hakim Kasmi.
Et Antoine, pour les chercheurs de France Stratégie, il faut donc distinguer les 23 millions d'emplois actuels. Ils se sont donc basés sur plusieurs catégories. En premier, les emplois dont le rythme de travail n'est pas imposé par une demande extérieure, exigeant une réponse immédiate et qui consiste en fait à appliquer strictement des consignes. 3,4 millions de postes répondent à cette définition. À l'inverse, les emplois dont le rythme de travail est imposé par une demande extérieure exigeant une réponse immédiate cette fois, eh bien cela consiste à plusieurs faits, notamment le fait qu'on utilise la robotisation pour des métiers par exemple commerciaux ou encore qui incluent le travail d'équipe, car ces métiers ne sont pas robotisés. insaisissable. Cette typologie permet en tout cas de constater que la société française a dû s'adapter. Résultat, ce sont surtout les métiers humains et hautement qualifiés qui en ont profité. Alors par exemple, c'est le nombre de secrétaires abaissé entre 1983 et 2013. Le contingent d'ingénieurs informatiques et télécoms a littéralement lui explosé pour passer de 43 000 à 355 000. Mais ce que nous montre aussi indirectement cette étude, c'est le recul continu de la France en termes d'industrie, au profit des services qui représentent aujourd'hui 75% des emplois. Alors, si les robots dans l'industrie ont permis de remplacer certaines activités pénibles, notamment dans le secteur de l'automobile, en revanche, dans certains secteurs comme par exemple l'aéronautique ou le spatial, on constate que l'humain reste encore primordial, idem pour les services à la personne, mais jusqu'à quand ? C'est une question qui reste pour l'instant sans réponse.
Voilà, pour le journalisme aussi. Merci beaucoup Hakim Kasmi, ainsi s'achève cette édition qui continue d'être fabriquée entièrement artisanalement. Un mot du temps quand même. Soleil généralisé, des maximales qui gagnent encore quelques degrés, 31 à 34 du nord au nord-est, 34 à 38 sur une grande partie ouest du pays, localement 39 au sud de la Loire, voire ponctuellement 40, Poitou, Charente, Aquitaine et nord de Midi-Pyrénées. Édition réalisée avec François-Charles Domergue, prochain journal 18h.